À cause du fait que j'ai entendu hier et aujourd'hui des choses, aujourd'hui, ce matin, des choses excellentes. Je ne vais pas me mettre à nommer les personnes, parce que ça fait palmarès. J'ai entendu ce matin particulièrement des choses excellentes. Alors, je vous préviens que je lis. Vous comprendrez après pourquoi. Je l'explique à l'intérieur. La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Y objecterons-nous que ça fasse disque? Pourquoi pas, si ça dit ce que. Encore faut-il ce dit ce que l'entendre, ce quelque chose que le disque ourdrome. Si j'injecte ainsi un bout de plus d'onomatopée dans la langue, ce n'est pas qu'elle soit en droit de me retoquer, qu'il n'y a pas d'onomatopée qui déjà ne se spécifie de son système phonématique à la langue. Vous savez que pour le français, Jacobson l'a calibré. C'est grand comme ça. Autrement dit, que c'est d'être du français que le discours drôme. Je tempère ça à remarquer. Courdrome est un ronron qu'admettraient d'autres la langue. Si j'agrais bien de l'oreille à telle de nos voisines géographiques. Et que ça nous sort naturellement du jeu de la matrice, celle de Jacobson, celle que j'en spécifiais à l'instant. Bon. Comme il ne faut pas que je parle trop longtemps, je vous passe un truc. Ça me donne l'occasion, simplement, ce tour de Rome, de mettre la voix sous la rubrique des quatre objets dits par moi, petit a. C'est-à-dire de l'art vidé, de la substance qui pourrait y avoir dans le bruit qu'elle fait. C'est-à-dire la remettre au compte de l'opération signifiante, celle que j'ai spécifiée des effets dits de métonymie. De sorte qu'à partir de là, la voix, si je puis dire, la voix est libre. libre d'être autre chose que substance. Voilà, mais c'est une autre délinéation que j'entends pointer en introduisant ma troisième. L'onomatopée, là, qui m'est venue d'une façon un peu personnelle, me favorise, touchant du bois, me favorise de ce que le ronron, c'est sans aucun doute la jouissance du chat. Que ça passe par son larynx ou ailleurs, moi j'en sais rien, quand je les caresse, ça a l'air d'être de tout le corps. C'est ce qui me fait entrer. Est-ce donc je veux partir? Je pars de là, ça vous donne pas forcément la règle du jeu, mais ça viendra après. Je pense donc se jouit. Oh. Ça rejette le donc usité, qui se dit je suis. Bon, je fais un petit banillage là-dessus. Rejeter, si c'est à entendre, comme ce que j'ai dit de la forclusion. Rejeter le je suis, ça reparaît dans le réel, ça pourrait passer pour un défi à mon âge. À mon âge où depuis 3 ans, comme on dit ça aux gens à qui on veut l'envoyer dans les dents, depuis 3 ans, Socrate était mort. Mais même si je défuntais, à la suite, ça pourrait bien m'arriver, c'est arrivé à Lévi-Strauss, comme ça, à la tribune. Descartes l'a jamais entendu à propos de son « je suis », dire qu'il jouissait de la vie, c'est pas ça du tout. Quel sens ça a, son « je suis » Ben, exactement. Mon sujet à moi, le je de la psychanalyse, notamment, il ne savait pas, le pauvre. Il ne savait pas, ça va de soi, il faut que je lui interprète. C'est un symptôme. Car de quoi est-ce qu'il pense avant de conclure qu'il suit la musique de l'être, sans doute. Il pense du savoir de l'école dont les jésuites, ses maîtres, lui ont rebattu les oreilles. Il constate que c'est léger. Ce serait meilleur tabac, c'est sûr. S'il se rendait compte que son savoir va bien plus loin qu'il ne croit, à la suite de l'école, qui a de l'eau dans le gaz, si je puis dire, et du seul fait qu'il parle, car parler de la langue, il a un inconscient, et paumé, comme tout un chacun qui se respecte. Que j'appelle un savoir impossible à rejoindre pour le sujet, alors que lui, le sujet, il n'y a qu'un signifiant seulement qu'il représente auprès de ce savoir. C'est un représentant, si je puis dire, de commerce avec ce savoir constitué pour Descartes, comme c'est d'usage à son époque, hein, son insertion dans le discours où il est né, c'est-à-dire le discours que j'appelle du maître, le discours du noblio. C'est bien pour ça qu'il en sort pas avec son « je pense, donc je suis ». C'est quand même mieux que ce que dit Parménide. Ouais. L'opacité de la conjonction du « noein » et de « leinai ». Il en sort pas, hein, ce pauvre Platon. Il n'en sort pas, hein, parce que s'il n'y avait pas lui, qu'est-ce qu'on saurait de Parménide? Mais ça n'empêche pas qu'il n'en sort pas. Hein. Et que s'il ne nous transmettait pas l'hystérie géniale, hein, de Socrate, hein, ben qu'est-ce qu'on en tirerait, hein? Moi, je me suis échiné, là, pendant ces pseudo-vacances. Je me suis échiné sur le sophiste. Je dois être trop sophiste, probablement, pour que ça m'intéresse. Il doit y avoir là quelque chose à quoi je suis bouché. J'apprécie pas. Il nous manque des trucs pour apprécier. Enfin, il nous manque de savoir ce qu'était le sophiste à cette époque. Il nous manque le poids de la chose. Allez, revenons au sens du « sui ». C'est pas simple, hein. Qui, dans la grammaire traditionnelle, se met au titre de la conjugaison d'un certain verbe être. Pour le latin, alors là, tout le monde s'en aperçoit, hein, que fui, comme on dit en Italie, hein, que fui ne fait pas somme avec sum, comme on dit aussi ici. Sans compter le reste du bric-à-brac. Bon, enfin, je vous passe de ce qui est arrivé quand les sauvages, là, les Gaulois, se sont mis à se tirer d'affaire avec ça. Ils ont fait glisser le est du côté du stat. Ils sont pas les seuls, d'ailleurs, en Espagne, je crois, c'était le même truc, enfin, bon. Enfin, la linguisterie se tire de tout ça comme elle peut. Je m'en vais pas maintenant vous répéter ce qui fait les dimanches de nos études classiques. Il n'en reste pas moins qu'on peut se demander, hein, de quelle chair ces êtres, qui sont d'ailleurs des êtres de mythe, hein, enfin ceux dont j'ai mis le nom là, les indo-européens, on les a inventés, exprès, enfin, c'est des mythèmes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre dans la copule, ce qui partout ailleurs que dans nos langues, c'est simplement n'importe quoi, enfin, qui sert de copule. Enfin, quelque chose comme la préfiguration du verbe incarné. On dira ça ici. Ça me fait suer, enfin, n'est-ce pas? On a cru me faire plaisir en faisant venir à Rome. Je sais pas pourquoi. Enfin, y a trop de locaux pour l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'être a de suprême? si ce n'est par cette copule. Enfin, je me suis amusé à y interposer ce qu'on appelle des personnes. Ça foire à être. Maintenant, j'ai trouvé un machin qui m'a amusé comme ça. Mais tu me... Mais tu me... Ça permet de s'embrouiller. Même tu... En réalité, c'est le même truc. Hein. C'est l'histoire du message que chacun reçoit sous sa forme inversée. Je dis ça depuis très longtemps, ça a fait rigoler. À la vérité, c'est à Claude Lévi-Strauss que je le dois. C'est penser vers c'est l'excellente amie qui est sa femme, qui est Monique, pour l'appeler par son nom, et il lui a dit, à propos de ce que j'exprimais, que c'était ça, enfin, que chacun recevait son message sous une forme inversée. Monique, qui me l'a répété, je ne pouvais pas trouver de formule plus heureuse pour ce que je voulais dire juste à ce moment-là. Enfin, c'est quand même lui qui me l'a refilé. Vous voyez, je prends mon bien où je le trouve. Bon, alors, je passe sur les autres temps, enfin, sur l'étayage de l'imparfait. Hein. J'étais. Qu'est-ce que tu étais? Et puis le reste, enfin, passons parce qu'il faut que j'avance. Le subjonctif, c'est marrant. Bon. Qu'il soit, comme par hasard. Bon. Descartes, lui, ne s'y trompe pas, hein. Dire, c'est le dire. Il voit très bien que dire, c'est ce qui fait être la vérité, ce qui en décide à sa tête. Il suffit de dire, comme moi, c'est la vérité par moyen d'échapper. Si dire nous trompe, tant pis. C'est la vérité par le décret du dire. La vérité en or. Bon, passons. Qu'est-ce que je fais là, comme ça? Juste à ce moment-là, quelqu'un remarque à bobo des gens comme ça qui ont trimballé la critique là de l'autre côté du Rhin pour finir par baiser le cul d'Hitler. Ça me fait grincer des dents. Bon. Alors, le symbolique, l'imaginaire et le réel, ça c'est le numéro un. L'inouï, c'est que ça ait pris du sens. Et pris du sens rangé comme ça. Dans les deux cas, c'est à cause de moi. C'est ce que j'appelle le vent. Hein. Le vent que... Le vent dont on... On sent que moi, je peux même... Je n'ai même plus le prévoir. Hein. Le vent dont on gonfle ses voiles à notre époque. Alors, c'est évident, ça n'en manque pas de sens au départ. C'est en ça que consiste la pensée, que des mots introduisent dans le corps quelques représentations imbéciles. Voilà, vous avez le truc. Vous avez là l'imaginaire. Et qui, en plus, nous rengorge. Ça ne veut pas dire qu'il nous rengorge, non. Il nous redégueule quoi? Enfin, comme par hasard, une vérité de plus. C'est un comble. Que le sens se loge en lui, nous donne du même coup les deux autres, comme sens. Ouais. L'idéalisme dont tout le monde a répudié comme ça l'imputation, l'idéalisme est là derrière. Les gens ne demandent que ça, hein? Que ça les intéresse, vu que la pensée, c'est bien ce qu'il y a de plus crétinisant, à agiter le grelot du sens. Comment vous sortir de la tête? L'emploi philosophique de mes termes, c'est-à-dire l'emploi ordurier. Quand d'autre part, il faut bien que ça entre, mais ça vaudrait mieux que ça entre ailleurs. Hein. Vous imaginez que la pensée, ça se tient dans la cervelle. Enfin, je ne sais pas pourquoi, vous en dissuaderez. Moi, je suis sûr comme ça, mais, c'est mon affaire, hein, que ça se tient dans les paussiers du front. Hein. Chez l'être parlant, exactement comme chez le hérisson. J'adore les hérissons. Quand j'en vois un, je le mets dans ma poche, dans mon mouchoir, naturellement, il pisse. Enfin, bon, jusqu'à ce que je l'ai ramené sur ma pelouse, à ma maison de campagne. Et là, j'adore voir se produire ce plissement des paussiers du front. À la suite de quoi, tout comme nous, il se met en boule. Bon, enfin, si vous pouvez penser avec les pensées du front, vous pouvez aussi penser avec les pieds. Ben, c'est là. Je voudrais que ça entre. Puisqu'après tout, l'imaginaire, le symbolique et le réel, c'est fait pour que ceux dans cet attroupement, enfin, qui sont ceux qui me suivent, pour que ça les aide à frayer le chemin de l'analyse. Ouais. C'est rond, là, c'est rond de ficelle, là. Donc. Je me suis esquinté à vous faire des dessins. Hein. C'est rond de ficelle. Hein. Il ne s'agit pas de les ronronner. Il faudrait que ça vous serve. Que ça vous serve justement à l'air dont je vous parlais cette année. Que ça vous serve à vous apercevoir ce qui... La topologie que ça définit, ce qu'il y a entre. à être non-dupe de l'autoroute. Ouais. Ces termes... Ces termes sont pas tabous, hein. Ce qu'il faudrait, c'est que vous les pigiez. Hein. Et ils sont là depuis... Puis bien avant, là, celle que j'implique de la dire, la première, enfin, la première fois que j'ai parlé à Rome. J'ai sorti ces trois après... Les avoir, enfin, ça. Assez bien cogité, je les ai sortis très tôt, bien avant de m'y être mis à mon premier discours de Rome. Que ça soit ces ronds du nœud borroméen, c'est quand même pas une raison non plus pour vous y prendre le pied. C'est pas ça que j'appelle penser avec ses pieds. Il s'agirait que vous y laissiez. Quelque chose de bien différent d'un membre. Par des analystes, hein, s'agirait que vous y laissiez cet objet insensé que j'ai spécifié du petit A. C'est ça ce qui s'attrape au coincement du symbolique, de l'imaginaire et du réel comme nœud. C'est à l'attraper juste que vous pouvez répondre. Ce qui est votre fonction, l'offrir comme cause. Comme cause de son désir à votre analysant. C'est ça qu'il s'agit d'obtenir, mais si vous prenez la patte, c'est pas terrible non plus, hein. L'important, c'est que ça se passe à vos frais. Pour dire les choses, après cette répudiation du « je suis », ben, je m'amuserais à vous dire que ce nœud, il faut l'être. Alors, si je rajoute en plus ce que vous savez, d'après ce que j'ai articulé pendant un an des quatre discours, sous le titre de l'envers de la psychanalyse, il n'en reste pas moins que de l'être. Il faut que vous n'en fassiez que le semblant. Ça, c'est calé. Hein? C'est d'autant plus calé qu'il se fait bas. Qu'il ne suffit pas d'en avoir l'idée pour en faire le semblant. Vous imaginez pas que j'en ai eu, moi, l'idée. Je l'ai écrit, objet petit A. C'est tout différent. Hein? Ça l'apparente à la logique. C'est-à-dire que ça le rend opérant dans le réel, au titre de l'objet dont, justement, il n'y a pas d'idée. « Il faut bien le dire. Était un trou. Jusqu'à présent, dans toute théorie, quelle qu'elle soit, l'objet dont il n'y a pas d'idée. De ce qui justifie mes réserves, celles que j'ai faites tout à l'heure, à l'endroit du présocratisme de Platon. C'est pas qu'il n'en ait pas eu le sentiment. Le semblant, il y baigne sans le savoir. Ça l'obsède. Car même s'il le sait pas, ça ne veut rien dire qu'une chose, c'est qu'il le sent. Mais qui sait pas pourquoi c'est comme ça. Douce, cet insupport, c'est insupportable qu'il propage. Il n'y a pas un seul discours où le semblant ne mène le jeu. On voit pas pourquoi le dernier venu, discours analytique, y échapperait. C'est quand même pas une raison pour que dans ce discours, sous prétexte qu'il est le dernier venu, vous vous sentiez si mal à l'aise. Que de faire selon l'usage dont s'engoncent vos collègues de l'international. Un semblant plus semblant que nature. Affiché. Vous vous rappelez quand même le semblant de ce qui parle comme espèce. Il est là toujours, dans toute espèce de discours qui les occupe. C'est quand même une seconde nature, alors. Soyez plus détendus, plus naturels, que quand vous recevez quelqu'un qui vient vous demander une analyse. Vous sentez pas si obligé à vous pousser du col. Même comme bouffon, vous êtes justifié d'être. Vous n'avez qu'à regarder ma télévision. Je suis un clown. Prenez exemple là-dessus. Et ne m'imitez pas. Le sérieux qui m'anime, c'est la série que vous constituez. Vous ne pouvez à la fois en être et l'être. Le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est l'énoncé de ce qui opère effectivement dans votre parole, quand vous vous situez du discours analytique, quand analyste vous l'êtes. Il n'émerge ces termes vraiment que pour et par ce discours. J'ai pas eu à y mettre d'intention, j'ai eu qu'à suivre, moi aussi. Ça veut pas dire que ça n'éclaire pas les autres discours. Mais ça les invalide pas non plus. Le discours du maître, par exemple, sa fin, c'est que les choses aillent au pas de tout le monde. Ça,
c'est pas du tout la même chose que le réel. Hein.
Parce que le réel, justement, c'est ce qui ne va pas. Ce qui se met en croix dans ce charroi, bien plus. Ce qui ne cesse pas de se répéter pour entraver cette marche. Je l'ai dit d'abord, ce qui revient toujours à la même place. L'accent est à mettre sur « revient ». C'est la place qui se découvre, la place du semblant. Il est difficile de la situer d'une seule imaginaire, comme d'abord la notion de place semble impliquer. Heureusement que nous avons la topologie mathématique pour y prendre un appui, et c'est ce que j'essaie de faire. D'un second temps à le définir, ce réel, c'est de l'impossible, d'une modalité logique, que j'ai essayé de le pointer. Supposé en effet, hein.
Et vous dites là, qu'il n'y a rien d'impossible dans le réel.
Ben, les savants voient une drôle de gueule, hein. Et nous aussi. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à flûter? Mais qu'est-ce qu'il a fallu parcourir de chemin pour s'apercevoir de ça? Des siècles, on a cru tout possible.
Enfin, je sais pas, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont lu Leibniz. Ils sentiraient que par le con possible. Dieu avait fait de son mieux. Il fallait que les choses soient possibles ensemble. Enfin,
ce qu'il y a de combinable. Et même de combine derrière tout ça, c'est pas imaginable. Peut-être l'analyse nous introduira-t-elle à considérer le monde comme ce qu'il est, imaginaire. Ça ne peut se faire qu'à réduire la fonction dite de représentation à la mettre là où elle est, hein. Soit dans le corps. Ça, il y a longtemps qu'on se doute de ça, hein? C'est même en ça que consiste l'idéalisme philosophique. Seulement, l'idéalisme philosophique est arrivé à ça. Mais tant qu'il n'y avait pas de science, après ça, il pouvait que la boucler. Non sans une petite pointe comme ça. En se résignant, j'attendais les signes de l'au-delà. Du noumen, comme ça qu'ils appellent ça. C'est pour ça qu'il y a eu quand même quelques évêques dans l'affaire, hein? L'évêque Berkeley notamment, qui de son temps était imbattable, et que ça arrangeait très bien. Le réel n'est pas le monde. Il n'y a aucun espoir d'atteindre le réel par la représentation. Je ne vais pas me mettre à arguer ici de la théorie des quantas, ni de l'onde et du corpuscule. Hein. Vaudrait mieux quand même que vous y soyez au parfum. Bien que ça ne vous intéresse pas, mais... vous y mettre au parfum, faites-le vous-même. Il suffit d'ouvrir quelques petits bouquins de science. Le réel, du même coup, n'est pas universel. Ce qui veut dire qu'il n'est tout qu'au sens strict de ce que chacun de ses éléments soit identique à soi-même. Mais à ne pouvoir se dire « panthèse ». Il n'y a pas de tous les éléments. Il n'y a que des ensembles à déterminer dans chaque cas. Pas la peine d'ajouter, c'est tout. Ça n'a le sens que de ponctuer. Ce n'importe quoi signifiant l'être, qui est-ce que j'écris S, indice 1. Signifiant qui ne s'écrit, que de le faire sans aucun effet de sens. Bon, l'homologue, si j'ose dire, de l'objet petit a. Enfin, quand je pense que je me suis amusé pendant un moment à faire un jeu, là, entre ce S1 que j'avais poussé jusqu'à la dignité du signifiant, J'ai joué avec ce 1 et le petit a en les nouant par le nombre d'or. Ça vaut 1000. Ça veut rien dire que ça vaut 1000, ça veut dire que ça prend portée de l'écrire. En fait, c'était pour illustrer la vanité de tout coït avec le monde. C'est-à-dire de ce que on a appelé juste ici la connaissance. Car il n'y a rien de plus dans le monde qu'un objet petit a. Chure ou regard, voix ou tétine, qui refend le sujet, et le grime en ce déchet qui, lui, au corps, existe. Pour en faire semblant, faut être doué. C'est particulièrement difficile comme ça pour... C'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Contrairement à ce qui se dit. Que la femme soit l'objet petit a de l'homme à l'occasion, ça veut pas dire du tout que... qu'elle est... elle a du goût à l'être. Mais enfin, ça arrive. Ça arrive qu'elle y ressemble naturellement. Il n'y a rien de plus semblable, enfin, qui ressemble plus à une chiure de mouche qu'à un affreude. Ça doit lui servir. Ouais. Soyons sérieux. Revenons à faire ce que j'essaie. Il me faut soutenir cette troisième du réel qu'elle comporte. C'est pourquoi je vous pose la question. Dont je vois que les personnes qui ont parlé avec moi, avant moi, se doutent un peu. Non seulement je doute, mais même elles l'ont dit. Et qu'elles l'aient dit, signe qu'elles s'en doutent. Est-ce que la psychanalyse est un symptôme? Vous savez que
quand je pose les questions, hein, c'est que j'ai la réponse. Mais enfin, ça vaudrait tout de même mieux que ce soit la bonne réponse. J'appelle symptôme ce qui vient du réel. Ça veut dire que ça se présente comme un petit poisson, hein, dont le bec vorace ne se referme qu'à se mettre du sens sous la dent. Alors, de deux choses l'une, hein. Ça le fait proliférer. Croissez, multipliez-vous. A dit le Seigneur, ce qui est quand même quelque chose d'un peu fort, ce qui devrait nous faire tiquer. Enfin, cet emploi du terme multiplication. Lui, le Seigneur, quand même, sait ce que c'est qu'une multiplication. C'est pas le foisonnement du petit poisson, non. Ou bien alors, il en crève. Ce qui vaudrait le mieux, c'est à quoi nous devrions nous efforcer, hein. C'est que le réel du symptôme en crève. Et c'est là la question, comment faire? Il y a une époque comme ça où je me propageais, enfin, dans des services que je nommerais pas, quoique dans mon machin, s'il fasse allusion, ça passera à l'impression, ça faut que je saute un peu. À une époque où vous essayez de faire comprendre dans des services de médecine ce que c'était que le symptôme. Je le disais pas tout à fait comme maintenant, hein. Mais quand même, c'est peut-être un arthrague. Quand même, je crois que je le savais déjà, même si je n'avais pas encore fait surgir l'imaginaire, le symbolique et le réel. Le sens du symptôme n'est pas celui dont on le nourrit pour sa prolifération ou extinction. Le sens du symptôme, c'est le réel. Le réel, en tant qu'il se met en croix pour empêcher que marchent les choses, au sens où elles se rendent compte d'elles-mêmes de façon satisfaisante, satisfaisante au moins pour le maître. Ce qui ne veut pas dire que l'esclave en souffre d'aucune façon, bien loin de là. L'esclave, mon pardon, cette parenthèse, l'esclave, lui, dans l'affaire, il est peinard, bien plus qu'on ne croit. C'est lui qui jouit, contrairement à ce que dit Hegel, qui devrait quand même s'en apercevoir, puisque c'est bien pour soi ce qu'il s'est laissé faire par le maître. Alors Hegel lui promet en plus l'avenir. Il est comblé, hein. Ça aussi, c'est un arthrague. Un arthrague plus sublime que dans mon cas, si je puis dire. Parce que ça prouve que l'esclave avait le bonheur d'être déjà chrétien au moment du paganisme. C'est évident, mais enfin, c'est quand même curieux. C'est vraiment là. C'est le bénéf total. Tout pour être heureux. Ça se retrouvera jamais. Maintenant qu'il n'y a plus d'esclaves, nous en sommes réduits à relicher tant que nous pouvons les comédies de Plaute et de Terence. Hein? Tout ça pour nous faire une idée de ce qu'ils étaient bien, les esclaves. Enfin, je m'égare. Hein? Ce n'est pas pourtant sans ne pas perdre la corde de ce qui prouve cet égarement. Le sens du symptôme dépend de l'avenir du réel. Donc, comme je l'ai dit là, à la conférence de presse, de la réussite de la psychanalyse. Ce qu'on lui demande, c'est de nous débarrasser et du réel et du symptôme. Si elle succède, a du succès dans cette demande, on peut s'attendre, je dis ça comme ça, pardon, mais je vois qu'il y a des personnes qui étaient bon à cette conférence de presse, alors c'est pour elles que je le dis, oui. On peut s'attendre à tout. Avoir un retour de la vraie religion, par exemple, qui, comme vous le savez, n'a pas l'air de dépérir. Hein. Elle n'est pas folle, hein, la vraie religion. Tous les espoirs lui sont bons, si je puis dire. Elle les sanctifie. Hein? Alors, bien sûr, ça les lui permet. Bon. Mais si la psychanalyse donc réussit, elle s'éteindra, hein? De n'être qu'un symptôme oublié. Elle ne doit pas s'en épater, c'est le destin de la vérité telle que elle-même le pose au principe. La vérité s'oublie. Donc tout dépend de si le réel insiste. Ben pour ça, il faut que la psychanalyse échoue. Vous reconnaître qu'elle en prend la voie. Hein? Et qu'elle a donc encore de bonnes chances de rester un symptôme, de croître et de se multiplier. Psychanalyste pas mort, l'être suit. Mais quand même, méfiez-vous. Hein? C'est peut-être mon message sous une forme inversée. Peut-être qu'aussi je me précipite, hein, c'est la fonction de la hâte que j'ai mis en valeur pour vous. Ce que je vous ai dit peut pourtant avoir été mal entendu, ce que je viens de vous dire. Hein. Entendu de sorte que ça soit pris au sens de savoir si la psychanalyse est un symptôme social. Il n'y a qu'un seul symptôme social. Chaque individu est réellement un prolétaire. C'est-à-dire n'a nul discours de quoi faire lien social, autrement dit, semblant. C'est à quoi Marx
apparaît. Hein? Apparaît d'une façon incroyable. Hmm. Aussitôt dit, aussitôt fait, hein? Ce qu'il a aimé implique qu'il n'y a rien à changer. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que tout continue exactement comme avant. La psychanalyse socialement a une autre consistance que les autres discours. Elle est un lien à deux. C'est bien en ça qu'elle se trouve à la place du manque de rapports sexuels. Ça suffit pas du tout à faire un symptôme social, puisque le rapport sexuel, il manque dans toutes les formes de société. C'est lié à la vérité qui fait structure de tout discours. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que qu'il n'y a pas de véritable société fondée sur le discours analytique, hein? Il y a une école, hein? Une école qui, justement, se définit pas d'être une société. Elle se définit de ce que j'y enseigne quelque chose. Si rigolo que j'ai vu disparaître quand on parle de l'école freudienne, c'est quelque chose dans le genre... de ce qui a fait les stoïciens, par exemple. Même les stoïciens avaient quand même quelque chose comme un pressentiment du lacanisme. C'est eux qui ont inventé la distinction du signans et du signatum. Par contre, je leur dois, moi, mon respect pour le suicide. Naturellement, ça ne veut pas dire pour des suicides fondés sur un badinage. Sur cette forme de suicide qui en somme est l'acte à proprement parler. À le rater, bien sûr. Ça, c'est pas un acte. Ouais. Dans tout ça, donc, il n'y a pas de problème de pensée. Un psychanalyste sait que la pensée est aberrante de nature. Qui ne l'empêche pas d'être responsable d'un discours qui soude l'analysant à quoi? Comme quelqu'un l'a très bien dit ce matin. Pas à l'analyste. Ce qu'il a dit ce matin,
Je l'exprime autrement. Je suis heureux que ça converge. Il soude l'analysant au couple analysant-analyste. C'est exactement le même truc qu'a dit quelqu'un ce matin. Bon, donc, le piquant de tout ça... c'est que ce soit le réel dont dépend l'analyste dans les années qui viennent, et pas le contraire. C'est pas du tout de l'analyste que dépend l'avènement du réel. L'analyste, lui, a pour mission de le contrer. Malgré tout, le réel pourrait bien prendre le mort aux dents. Surtout depuis qu'il a l'appui du discours scientifique. C'est même un des exercices de ce qu'on appelle science-fiction. Je dois dire que je ne le lis jamais. Mais souvent, dans les analyses, on me raconte ce qu'il y a dedans. C'est pas imaginable. L'eugénique, hein, l'euthanasie. Enfin, toutes sortes de plaisanteries diverses. Non. Là où ça devient drôle, c'est seulement quand les savants eux-mêmes sont saisis, non pas bien sûr de la science-fiction, mais ils sont saisis d'une angoisse. Ça, c'est quand même instructif. C'est bien le symptôme type de tout avènement du réel. Et quand les biologistes, pour les nommer, ces savants, s'imposent l'embargo d'un traitement de laboratoire des bactéries sous prétexte que si on en fait trop dure et trop forte, elle pourrait bien glisser sous le pas de la porte. Et nettoyer, enfin, au moins toute l'expérience sexuée, en nettoyant le par-l'être. Ça, c'est tout de même quelque chose de très piquant. Cet accès de responsabilité est formidablement comique. Toute vie, enfin, réduite à l'infection qu'elle est, réellement, selon toute vraisemblance, ça, c'est le comble de l'être pense. L'ennui, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas, pour autant que la mort se localise du même coup à ce qui, dans la langue telle que je l'écris, en fait signe. Quoi qu'il en soit, les « ou » de plus haut, ben moi souligner au passage... nous mettrait enfin dans l'apathie du bien universel et suppléerait à l'absence du rapport que j'ai dit impossible à jamais par cette conjonction de Kant avec Sade, dont j'ai cru devoir marquer dans un écrit l'avenir qu'il nous pend au nez. Soit le même que celui où l'analyse a en quelque sorte son avenir assuré. Français, encore un effort pour être républicain. Ce sera à vous de répondre à cette objurgation, parce que, hein, quoi que je sache pas toujours, enfin, si cet article vous a fait ni chaud ni froid, hein, il y a juste un petit type qui s'est escrimé sur... Ça n'a pas donné grand-chose. Plus je mange mon Dasein, comme j'ai écrit à la fin d'un de mes séminaires, moins j'en sais dans le genre de l'effet qui vous fait. Cette troisième, je la lis, quand vous pouvez vous souvenir peut-être que la première qui y revient, j'avais cru devoir y mettre ma parlance, puisqu'on l'a imprimée depuis. Ce sous-prétexte que vous en aviez tous le texte distribué. Si aujourd'hui, je ne fais cours de Rome, j'espère que ça vous fait pas trop obstacle à entendre ce que je lis. Si elle est trop, je m'excuse. La première donc, celle qui revient pour qu'elle ne cesse pas de s'écrire, nécessaire, la première fonction et chant. J'ai dit ce qu'il fallait dire. L'interprétation, et j'ai mis, n'est pas interprétation de sens. Mais je, sur l'équivoque. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur le signifiant dans la langue. Je l'ai désigné de l'instance de la lettre. Ce pour me faire entendre de votre peu de stoïcisme. Il en résulte, ai-je ajouté depuis sans plus d'effet, que c'est la langue dont s'opère l'interprétation, ce qui n'empêche pas que l'inconscient soit structuré comme un langage. Un de ces langages dont, justement, c'est l'affaire des linguistes de faire croire que la langue est animée. La grammaire, qu'ils appellent ça généralement, ou quand c'est Yemslef, la forme. Ça va pas tout seul. Même si quelqu'un qui m'en doit le frayage a mis l'accent sur la grammatologie. Ouais. Bon. La langue, c'est ce qui permet que le vœu, souhait, on considère que c'est pas par hasard que ce soit aussi le vœu de vouloir, troisième personne de l'indicatif. Que le nom niant et le nom nommant, c'est pas non plus par hasard, ni que deux D apostrophes avant ce « eux » qui désigne ceux dont on parle, ce soit fait de la même façon que le chiffre 2. Ce n'est pas là pur hasard, ni non plus arbitraire, comme dit Saussure. Ce qu'il faut y concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification qui s'en marque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. La langue n'est pas à dire vivante parce qu'elle est en usage. C'est bien plutôt la mort du signe qu'elle véhicule. Ce n'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage que la langue n'est pas à jouer contre son jouir. Puisqu'elle s'est faite de se jouir même. Le sujet supposé savoir qu'est l'analyste dans le transfert ne l'est pas supposé à tort s'il sait en quoi consiste l'inconscient d'être un savoir qui s'articule de la langue. Le corps qui la parle n'y est noué que par le réel dont il se jouit. Mais le corps est à comprendre au naturel comme dénoué de ce réel qui, pour y exister au titre de faire sa jouissance, ne lui reste pas moins opaque. Il est l'abîme moins remarqué de ce que ce soit la langue qui, cette jouissance, la civilise, si j'ose dire. J'entends par là qu'elle l'apporte à son effet développé, celui par lequel le corps jouit d'objets dont le premier, celui que j'écris du petit a, est l'objet même, comme je le disais, dont il n'y a pas d'idée. D'idée comme telle, j'entends, sauf à le briser, cet objet, auquel cas ces morceaux sont identifiables corporellement et comme éclat du corps identifié. Mais c'est seulement par la psychanalyse. C'est en cela que cet objet fait le noyau élaborable de la jouissance, mais il ne tient qu'à l'existence du nœud aux trois consistances de tort, de ronde ficelle qu'il constitue. L'étrange est ce lien qui fait qu'une jouissance, quelle qu'elle soit, le suppose cet objet, et qu'ainsi le plus de jouir, puisque c'est ainsi que j'ai cru pouvoir désigner sa place, soit au regard d'aucune jouissance sa condition. Voilà. C'est le cas pour ce qui en est de la jouissance du corps en tant qu'elle est jouissance de la vie. La chose la plus étonnante, c'est que cet objet, le petit âme, sépare cette jouissance du corps de la jouissance phallique. Pour ça, il faut que vous voyez comment c'est fait le nœud borroméen. Que la jouissance phallique devienne anomalique à la jouissance du corps, c'est quelque chose qui s'est déjà aperçu 36 fois. Je ne sais pas combien de TPC sont un peu à la page là de ces histoires à la mort moelle d'oie là qui nous viennent de l'Inde. Kundalini, ils appellent ça. Il y en a qui désignent par là cette chose à faire grimpette tout le long de leur moelle, qui disent, parce que depuis, on a fait quelques progrès en anatomie, alors ce que les autres expliquent d'une façon qui concerne l'arête du corps, ils s'imaginent que c'est la moelle et que ça monte dans la cervelle. Oui. L'or-corps de la jouissance phallique, pour l'entendre, et nous l'avons entendu ce matin, grâce à mon cher Paul Matisse, qui est aussi celui à qui je faisais grand compliment de ce que j'ai lu de lui sur l'écriture et la psychanalyse. Il nous en a donné ce matin un formidable exemple. C'est pour une lumière, ce machimie. C'est pour nous dire que c'est Saint-Sébastien qui lui a donné l'occasion d'éjaculer pour la première fois. Faut vraiment que ça l'ait épaté, cette éjaculation. Nous voyons ça tous les jours, les types qui vous racontent que leur première masturbation s'en souviendront toujours, que ça crève l'écran. Oui. En effet, on comprend bien pourquoi ça crève l'écran, parce que ça vient pas du dedans de l'écran. Lui, le corps, s'introduit dans l'économie de la jouissance. Sachez là que je suis parti par l'image du corps. Le rapport de l'homme, ce qu'on appelle de ce nom, avec son corps, s'il y a quelque chose qui souligne bien qu'il est imaginaire, c'est la portée qui prend l'image. Et au départ, j'ai bien souligné ceci, c'est qu'il fallait pour ça quand même une raison dans le réel, et que la prématuration de Bolk, c'est pas de moi, c'est de Bolk. Moi, j'ai jamais cherché à être original, j'ai cherché à être logicien. C'est-à-dire que la prématuration qui l'explique, cette préférence pour l'image, qui vient de ce qu'il anticipe sa maturation corporelle. Avec tout ce que ça comporte, bien sûr. À savoir qu'il ne peut pas voir un de ses semblables, sans penser que ce semblable prend sa place, donc naturellement qu'il le vomit, oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça, Vinci? Si inférité à son image. Vous savez le mal que je me suis donné, hein, dans un temps, hein, parce que naturellement vous vous en êtes pas aperçu, hein, le mal que je me suis donné quand même pour expliquer ça. Enfin, je voulais absolument donner à cette image je ne sais quel prototype chez un certain nombre d'animaux, à savoir le moment où l'image, enfin, ça joue un rôle dans le processus germinal. Alors j'ai été chercher le criquet pèlerin, un tas de trucs, hein, l'épinoche, la pigeonne. En réalité, c'était pas du tout quelque chose comme un prélude, un exercice. Hein. C'est des hors-d'œuvre, tout ça. Que l'homme aime tellement à regarder son image, ben voilà. Il n'y a qu'à dire, c'est comme ça. Mais ce qui est le plus épatant, c'est que ça a permis le glissement, n'est-ce pas, le glissement du commandement de Dieu. L'homme est quand même plus prochain à lui-même dans son être que dans son image, dans le miroir. Hein. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, enfin, si ça ne se fonde pas sur ce mirage, qui est quand même quelque chose de drôle, mais comme c'est un mirage, justement, et ce qu'il porte à haïr non pas son prochain, mais son semblable. C'est un truc qui porterait un peu à côté si on ne pensait pas que quand même Dieu doit savoir ce qu'il dit et que il y a quelque chose qui s'aime mieux encore pour chacun que son image. Oui. Ce qui est frappant, c'est ceci. Hein. C'est que s'il y a quelque chose qui nous donne l'idée, hein, du se jouir, c'est l'animal. Hein. On peut en donner aucune preuve. Hein. Mais enfin, ça semble bien être appliqué par ce qu'on appelle le corps animal. La question devient intéressante à partir du moment si on l'étend et si au nom de la vie, on se demande si la plante jouit. C'est quand même quelque chose qui a un sens. Parce que c'est quand même là qu'on nous a fait le coup. On nous a fait le coup du lys des champs. Il ne tisse ni ne file, a-t-on ajouté. Mais il est sûr que maintenant, nous ne pouvons pas nous contenter de ça pour la bonne raison que justement c'est leur cas de tisser et de filer. Pour nous qui voyons ça au microscope, enfin, il n'y a pas d'exemple manifeste que c'est du filet. Alors, c'est peut-être de ça qu'ils jouissent de tisser et de filer. Mais ça laisse quand même l'ensemble de la chose tout à fait flottante, hein? La question reste à trancher si vie implique jouissance. Et si la question reste douteuse pour le végétal, ça ne met plus en valeur qu'elle ne le soit pas pour la parole. Que la langue ou la jouissance fait dépôt, comme je l'ai dit, non sans la mortifier, n'est-ce pas, sans qu'elle ne se présente comme du bois mort, témoigne quand même que la vie, dont un langage fait rejet, nous donne bien l'idée que c'est quelque chose de l'ordre du végétal. Il faut regarder ça de près. Enfin, il y a un linguiste comme ça qui a beaucoup insisté sur le fait que le phonème, ça fait jamais sens. Bon. L'embêtant, c'est que le mot ne fait pas sens non plus malgré le dictionnaire. Moi, je me fais fort de faire dire dans une phrase à n'importe quel mot, n'importe quel sens. Oui. Alors, si on fait dire à n'importe quel mot, n'importe quel sens, où s'arrêter dans la phrase, où trouver l'unité, l'aimant. Puisque nous sommes à Rome, je vais essayer de... De vous donner une idée là de ce que je voudrais dire, sur ce qu'il en est de cette unité à chercher du signifiant. Il y a, vous savez, les fameuses trois vertus dites justement théologales. Ici, on les voit se présenter aux murailles, exactement partout, enfin, sous la forme de femmes plantureuses. Ce qu'on puisse dire, c'est qu'après ça, elle est traitée de symptômes. On ne force pas la note. Définir le symptôme comme je l'ai fait, enfin, à partir du réel, c'est dire que les femmes l'expriment aussi très très bien, le réel. Puisque justement, j'insiste sur ce que les femmes ne sont pas toutes. Alors là-dessus, l'espérance, non, la foi, l'espérance et la charité. Oui. Si je les signifie de la foire, de l'espère Ogna, lasciate ogni speranza. C'est un métamorphème comme un autre. Puisque tout à l'heure, vous m'avez passé Ourdrum. Les dénommés de ça est de finir par le ratastip, à savoir l'art si raté. Il me semble que c'est une incidence plus effective pour le symptôme, hein. Pour le symptôme de ces trois femmes, ça me paraît plus pertinent que ce qui, au moment, enfin, où on se met à rationaliser, enfin, tout, parce que qu'est-ce que c'est autre chose que les trois questions de Kant avec lesquelles j'ai eu à me dépêtrer à la télévision, à savoir, que puis-je savoir, que m'est-il permis d'espérer, c'est vraiment le comble, hein, et que dois-je faire, hein. C'est quand même très curieux, enfin, n'est-ce pas qu'on en soit là. Non, pas bien sûr que je considère que la foi, l'espérance et la charité soient les premiers symptômes à mettre sur la sellette. Enfin, ce n'est pas des mauvais symptômes, enfin, ça entretient tout à fait bien, enfin, la névrose universelle, enfin, n'est-ce pas, mais... C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses n'aillent pas trop mal, afin qu'on soit tous soumis au principe de réalité, c'est-à-dire au fantasme, n'est-ce pas? Mais enfin, l'Église quand même est là qui veille, et une rationalisation délirante comme celle de Kant, enfin, c'est quand même ce qu'elle tamponne, hein. J'ai pris cet exemple comme ça pour ne pas m'empêtrer dans ce que j'avais commencé d'abord par vous donner comme jeu, comme exemple de ce qu'il faut pour traiter un symptôme. N'est-ce pas? Quand j'ai dit que l'interprétation, ça doit toujours être comme on l'a dit, Dieu merci, ici. Et pas plus tard qu'hier, à savoir Tostin, le Redimède, Marcel Duchamp, enfin qu'au moins vous en entendiez quelque chose. L'essentiel qu'il y a dans le jeu de mots, c'est là que doit viser notre interprétation pour n'être pas celle qui nourrit le symptôme de sang. Et puis je vais tout vous avouer, hein. Je vais tout vous avouer, pourquoi pas. Ce truc-là, ce glissement de la foi, l'espérance et la charité vers la foi. Je dis ça parce qu'il y a eu quelqu'un hier soir à la conférence de presse ou avant-hier soir a trouvé que j'allais un peu fort sur le sujet de la foi et de la foi. C'est un merveilleux. Le droit, tout comme Freud, afin de vous faire part de mes rêves. Contrairement à ceux de Freud, ils sont pas inspirés par le désir de dormir. C'est plutôt le désir de réveil, moi, qui m'agite. Enfin, c'est particulier. Enfin, signifiant unité, c'est capital. C'est capital, mais ce qui est sensible, c'est que sans, ça c'est manifeste, que le matérialisme moderne lui-même, on peut être sûr qu'il ne serait pas né si depuis longtemps ça ne tracassait les hommes. Et si dans ce tracas, la seule chose qui montrait être à leur portée, c'était toujours la lettre quand Aristote, quand n'importe qui, enfin, se met à l'idée de l'élément, c'est toujours, il fait une série de lettres, Rho, Sigma, Tau, enfin, exactement comme nous, enfin, il n'y a pas ailleurs, il n'y a rien qui donne d'abord l'idée de l'élément, au sens où tout à l'heure, je crois, je l'évoquais, du grain de sable. C'est peut-être aussi dans un de ces trucs que j'ai sauté. Bon, enfin, peu importe, l'idée de l'élément, l'idée de Jean, je l'ai dit, que ça ne pouvait que se compter, enfin, et rien ne nous arrête dans le sort. Si nombreux que soient les grains de sable, il y a déjà un Archimède qui l'a dit, si nombreux qu'ils soient, on arrivera toujours à les calibrer. Mais tout ceci nous vient à partir de quelque chose qui n'a pas de meilleur support que la lettre, mais ça veut dire aussi, parce qu'il n'y a pas de lettre sans de la langue. C'est même le problème, comment est-ce que la langue, ça peut se précipiter dans la lettre? On n'a jamais fait rien de bien sérieux sur l'écriture. Même la peine, enfin, parce que c'est là tout à fait un joint. Ouais. Donc, que le signifiant soit posé par moi comme... Nécessairement, c'est au chiffre qu'on retourne. Et que c'est ça le seul exorcisme dont soit capable la psychanalyse, c'est que le chiffrage se résume à un seul chiffre. Il fait que le symptôme, c'est quelque chose qui, avant tout, ne cesse pas de s'écrire du réel. J'allais à l'apprivoiser jusqu'au point que dans le langage, on peut faire équivoque. C'est là par quoi le terrain qui sépare le symptôme de ce que je vais vous montrer sur mes petits dessins. Quand le symptôme se réduise à la jouissance phallique. Ouais. Il faut que j'en saute un bout comme ça. Mon séjouit d'introduction. Ce qui pour vous en est le témoin, c'est que votre analysant présumé se confirme d'être tel. À ceci, qu'il revienne. Parce que je vous le demande, pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Vu la tâche où vous le mettez, si ça lui faisait pas un plaisir fou. Ou qu'en plus, souvent, enfin... Il en met à savoir qu'il faut qu'il fasse encore d'autres tâches, pour satisfaire à votre analyse. Il se jouit de quelque chose, et non pas de tout « je suis ». Parce que tout indique, tout doit même, par vous, indiquer que vous ne vous demandez pas du tout simplement de d'assainir, d'être là, comme moi, je le suis maintenant, mais plutôt et tout à l'opposé, de mettre à l'épreuve cette liberté de la fiction, de dire n'importe quoi, qui en retour va s'avérer être impossible. C'est-à-dire que ce que vous lui demandez, c'est tout à fait de quitter cette position que je viens de qualifier du Dasein, et qui est plus simplement celle dont il se contente. Il s'en contente justement de s'en plaindre, de savoir de ne pas être conforme à l'aide sociale, de savoir qu'il y a quelque chose qui se met en travers, et justement de ce que quelque chose se met en travers, c'est ça qu'il aperçoit comme symptôme, comme tel, symptomatique du réel. En plus, il y a l'approche qu'il fait de le penser, mais ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire dans toute névrose. Tout ce que je dis là n'est pas vrai forcément dans l'éternel. Ça m'est d'ailleurs complètement indifférent. C'est que c'est la structure même du discours que vous ne fondez qu'à reformer, voire réformer les autres discours. En tant qu'au vôtre, ils existent. Et c'est dans le vôtre, dans votre discours, que le par-lettre épuisera cette insistance qui est la sienne et qui, dans les autres discours, reste à coup. Alors, où se loge ce « ça se jouit » de mes... dans mes registres catégoriques de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Voilà, il faut quand même que, pour que vous pisiez, vous ne voulez pas les rabattre toutes, rabattre celles qui sont derrière. Bon. Pour qu'il y ait nœud borroméen, regardez là ce qui est en haut. Pour qu'il y ait nœud borroméen, c'est pas nécessaire que mes trois consistances fondamentales
soit toute torique.
Comme vous l'avez peut-être, enfin, comme ça, comme c'est peut-être venu à vos oreilles, vous savez qu'une droite peut être censée se mordre la queue à l'infini. Alors, du symbolique, de l'imaginaire et du réel, il peut y avoir un des trois, le réel sûrement, qui lui se caractérise, justement, de ce que j'ai dit, de ne pas faire tout, c'est-à-dire de ne pas se boucler. Supposez même que ce soit la même chose pour le symbolique. Il suffit que l'imaginaire se voit un de mes trois torts se manifeste bien comme l'endroit où assurément on tourne en rond pour que avec deux droites ça fasse un nœud borroméen. Ce que vous voyez en haut, ce n'est pas par hasard, peut-être, que ça se présente comme l'entrecroisement de vie de l'écriture grecque. Ce que vous voyez en haut, c'est peut-être bien aussi quelque chose qui est tout à fait digne d'entrer dans le cas du néo-roméen. Faites sauter aussi bien la continuité de la droite que la continuité du rond. Ce qu'il y a de reste, que ce soit une droite et un rond, ou que ce soit deux droites, est tout à fait libre. Ce qui est bien la définition du nœud borroméen. Alors, en vous disant tout ça, j'ai le sentiment, enfin, je l'ai même noté dans mon texte, enfin, que le langage, c'est vraiment ce qui... ce qui ne peut avancer qu'à se tordre et à s'enrouler, à se contenir. Tourner d'une façon, enfin, dont après tout, je peux pas dire que je ne donne pas ici l'exemple. Il faut pas croire qu'à relever le gant pour lui, enfin, a marqué dans tout ce qui nous concerne, enfin, à quel point nous en dépendons. Faut pas croire que je fasse ça. Tellement de gaieté de cœur. Ce qui me paraît comique, c'est simplement qu'on ne s'aperçoive pas qu'il n'y a aucun autre moyen de penser et que des psychologues à la recherche de la pensée qui ne serait pas parlée impliquent en quelque sorte la pensée pure, si j'ose dire. Ça serait mieux. Dans ce que tout à l'heure j'ai avancé de cartésien, le « je pense, donc je suis nommément », il y a une erreur, enfin, il y a une erreur profonde, c'est que ce qui l'inquiète, c'est quand elle imagine que la pensée fait étendue, si l'on peut dire. Mais c'est bien ce qui démontre qu'il n'y a que pensée, si je puis dire, de pensée pure, de pensée qui ne soit pas soumise aux contorsions du langage,
que justement la pensée de l'étendue. Et alors, c'est à quoi je voulais vous introduire aujourd'hui, et que je ne fais en fin de compte après 2 heures, n'est-ce pas, que d'y échouer, n'est-ce pas, que de ramper, c'est ceci, c'est que l'étendue est l'étendue que nous supposons être l'espace qui nous est commun, à savoir les 3 dimensions. Pourquoi diable est-ce que ça n'a jamais été abordé par la voix du nœud? Je fais une petite sortie comme ça, une évocation citatoire du vieux Rimbaud et de son effet de bateau ivre, si je puis dire. Je ne me sentis plus tiré par les haleurs. Il n'y a aucun besoin de rabateau, enfin, bon, ni de poite, ni d'étiopoite, enfin, il n'y a aucun besoin de ça pour se poser la question de savoir pourquoi des gens qui incontestablement, taillaient des pierres, et ça, c'est ça, c'est la géométrie d'Euclide. Pourquoi ces gens qui, quand même, ces pierres avaient ensuite allé hisser au haut des pyramides, et ne le faisaient pas avec des chevaux, enfin, chacun sait que les chevaux ne tiraient pas grand-chose tant qu'ils n'avaient pas inventé le collier. Comment est-ce que ces gens qui donc tiraient eux-mêmes de ces trucs, c'est pas d'abord la corde et du même coup le nœud qui est venu au premier plan de leur géométrie? Comment est-ce qu'ils n'ont pas vu que grâce au nœud et à la corde, cette chose dans laquelle les mathématiques les plus modernes elles-mêmes, c'est le cas de le dire, perdent la corde, car on ne sait pas comment formaliser ce qu'il en est du nœud. Il y a un tas de cas où on perd les pédales et où le mathématicien, c'est pas le cas du nœud borroméen. Ça, le mathématicien, c'est de Gubet, s'est aperçu que le nœud borroméen, c'était simplement une tresse. Et le type de tresse, du genre le plus simple. Bon. Alors, il est évident que, par contre, ce nœud-là, tel que je vous l'ai mis en haut, enfin, de cette façon d'autant plus saisissante, n'est-ce pas, que c'est elle qui nous permet de ne pas faire dépendre toutes les choses de la consistance torique de quoi que ce soit, mais seulement au moins d'une. Et cette au moins une, c'est elle qui, si vous la rapetissez indéfiniment, peut vous donner l'idée-là sensible en ceci, que si nous ne supposons pas le nœud manifesté du fait que le tort imaginaire que j'ai posé là se rapetasse à l'infini, nous n'avons aucune espèce d'idée du point, parce que les 2 droites telles que je viens de vous les inscrire là, les droites que j'attribue, que j'affecte des termes du symbolique et du réel, elles glissent l'une sur l'autre, enfin, si je puis dire, à perte de vue. Pourquoi est-ce que deux droites sur une surface, sur un plan, se croiseraient, s'intersecteraient, on se le demande? Où est-ce qu'on n'a jamais vu quoi que ce soit qui ressemble, sauf à manier la scie, bien sûr, et à imaginer que ce qui fait arrête dans un volume, ça suffit à désigner une ligne. Comment est-ce que, en dehors de ce phénomène du sciage, on peut imaginer que la rencontre de deux droites, c'est ce qui fait un point? Il me semble qu'il en faut au moins trois. Bon, alors, ceci, bien sûr, nous emmène un tout petit peu plus loin. Vous lirez ce texte, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est au moins amusant. Bon. Faut quand même que je vous montre. Enfin, ceci, bien sûr, naturellement, vous désigne la façon dont, en fin de compte, le nœud borroméen rejoint bien, enfin, ces fameuses trois dimensions que nous imputons à l'espace, sans d'ailleurs nous priver, enfin, d'en imaginer tant que nous voulons, n'est-ce pas? Et voir comment ça se produit, et se produit un nœud borroméen, quand justement nous le mettons dans cet espace, vous voyez là une figure à gauche, et c'est évidemment en faisant glisser d'une certaine façon ces trois rectangles, qui font déjà parfaitement nœud à soi tout seul, c'est en les faisant glisser que vous obtenez la figure d'où part tout ce qu'il en est de ce que je vous ai montré tout à l'heure et de ce qui constitue un nœud borroméen. Et donc, je vais vous donner l'exemple, là, simplement. Tel qu'on se croit obligé de le dessiner. Bon. Alors, tâchons quand même de voir, enfin, de quoi il s'agit, à savoir que dans ce réel se produisent des corps organisés et qui se maintiennent dans leur forme, n'est-ce pas? C'est ce qui explique que des corps imaginent l'univers, n'est-ce pas? C'est pourtant pas surprenant que, hors du par-l'être, nous n'ayons aucune preuve que les animaux pensent au-delà de quelque forme à quoi nous les supposons être sensibles, de ce qu'ils y répondent de façon privilégiée. Mais ce que nous ne voyons pas, et ce que les écologistes, chose très curieuse, mettent entre parenthèses, vous savez ce que c'est que les écologistes, c'est les gens qui étudient les mœurs et coutumes des animaux, c'est pas une raison pour que nous imaginions nous-mêmes que le monde est monde pour tous animaux eux-mêmes, si je puis dire. Alors que nous avons tant de preuves, que c'est enfin que... Que même si nous, enfin, c'est notre corps, enfin, l'unité de notre corps nous force à le penser comme univers, c'est évidemment pas monde qu'il est, c'est immonde. C'est quand même du malaise que quelque part Freud note, du malaise dans la civilisation que procède toute notre expérience. Bon, ce qui est frappant, n'est-ce pas, c'est que le corps, puisque pour le désigner... Le corps, c'est très frappant que, à ce malaise, il contribue. Il contribue d'une façon que dont nous savons très bien animer, si je peux dire, animer les animaux, de notre peur. De quoi nous avons peur? Ça ne veut pas simplement dire à partir de quoi avons-nous peur, hein? De quoi avons-nous peur? De notre corps. Oui, c'est ce que manifeste ce phénomène curieux à quoi je... sur quoi je fais un séminaire toute une année, enfin, que j'ai dénommé de l'angoisse. L'angoisse, c'est justement quelque chose qui se situe ailleurs dans notre corps. C'est le sentiment qui surgit de ce soupçon qui nous vient de nous réduire à notre corps. Comme quand même, bien c'est très très curieux que cette débilité du par-l'être ait réussi à aller jusque-là, enfin, n'est-ce pas? C'est que on s'est aperçu que l'angoisse, enfin, c'est pas la peur de quoi que ce soit dont le corps puisse se motiver. C'est une peur de la peur. Et qui se situe si bien par rapport, enfin, à ce que je voudrais aujourd'hui vous pouvoir quand même vous dire, puisque sur les 66 pages que j'ai eu la connerie de pondre pour vous, naturellement je ne m'en vais pas mettre à parler comme ça encore indéfiniment. Ce que je voudrais bien vous montrer, c'est ceci. C'est que... Vous voulez pas m'apporter ça?
Est-ce qu'il y a un micro volant?
Dans ce que j'ai donc imaginé pour vous, et que je lirai, dans ce que j'ai imaginé pour vous et que je lirai, dans ce que j'ai imaginé pour vous, oui ou non?
Bon, il n'y a pas un technicien, s'il vous plaît, pour faire marcher ce micro.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce que j'ai imaginé pour vous, n'est-ce pas, à identifier chacune de ces consistances,
parallèle de l'imaginaire, du symbolique et du réel, ce qui fait lieu et place pour la jouissance phallique est ce champ qui, de la mise à plat du nœud borroméen, se spécifie de l'intersection que vous voyez ici. Cette intersection elle-même, telles que les choses se figurent du dessin, comporte deux parties, puisqu'il y a une intervention du troisième champ, qui est ce point dont le coincement central définit l'objet petit a. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur ce place du plus de jouir que se branche toute jouissance. Et donc, ce qui est externe dans chacune de ces intersections, ce qui est externe à un de ces champs, en d'autres termes, la jouissance phallique, ce que j'ai là écrit du J-Phi, c'est ça qui en définit ce que j'ai qualifié tout à l'heure de leur corps. De même, le rapport est le même de ce qui est le cercle de droite où se gîte le réel par rapport au centre. C'est bien, et c'est là que j'insiste, que j'ai insisté notamment lors de la conférence de presse, c'est que à nourrir le symptôme, le réel, de sens, on ne fait que lui donner continuité de subsistance. C'est un temps au contraire que quelque chose dans le symbolique se resserre de ce que j'ai appelé le jeu de mots, l'équivoque, lequel comporte l'abolition du sens, que tout ce qui concerne la jouissance, et notamment la jouissance phallique, peut également se resserrer. Car ceci ne va pas sans que vous vous aperceviez de la place dans ces différents champs du symptôme. La voici telle qu'elle se présente dans la mise à plat du nœud borroméen. le symptôme est irruption de cette anomalie en quoi consiste la jouissance phallique, ce pour autant que s'y étale, que s'y épanouit ce manque fondamental que je qualifie du non-rapport sexuel. C'est en tant que dans l'interprétation, c'est uniquement sur le signifiant que porte l'intervention analytique que quelque chose peut reculer du champ du symptôme.
Dans le symbolique, le symbolique en tant que c'est la langue. C'est la langue qu'il supporte et que le savoir inscrit de la langue qui constitue à proprement parler l'inconscient s'élabore, qu'il gagne sur le symptôme, ceci n'empêchant pas que le cercle marqué là du grand S ne corresponde à quelque chose qui de ce savoir ne sera jamais réduit, c'est à savoir l'Urverdrängte de Freud, ce qui, de l'inconscient, ne sera jamais interprété. En quoi est-ce que j'ai écrit au niveau du cercle du réel le mot « vie » c'est qu'incontestablement, de la vie, après ce terme vague qui consiste à énoncer le jouir de la vie, nous ne savons rien d'autre, et tout ce à quoi nous induit la science, c'est de voir qu'il n'y a rien de plus réel, ce qui veut dire rien de plus impossible que d'imaginer comment a pu faire son départ cette construction chimique qui, d'éléments répartis, enfin dans quoi que ce soit et quelque façon que nous voulions le qualifier par les lois de la science, se serait mis tout d'un coup à construire une molécule d'ADN. C'est-à-dire quelque chose dont je vous fais remarquer que très curieusement, c'est bien là qu'on voit déjà, qu'on voit la première image d'un nœud. Et s'il y a quelque chose qui devrait nous frapper, c'est qu'on est mis si tard à s'apercevoir que quelque chose dans le réel n'est pas rien, la vie même se structure d'un nœud, comment ne pas s'étonner qu'après ça, nous ne trouvions justement nulle part, ni dans l'anatomie, ni dans les plantes grimpantes, qui sembleraient être expressément faites pour ça, aucune image de nœud naturel. Je vais vous suggérer quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas là le signe d'un autre type de refoulement d'Urverdrängte? Enfin, quand même, ne nous mettons pas trop à rêver. Nous avons, avec nos traces, assez à faire. Que
la représentation, jusqu'à y compris le préconscient de Freud, soit justement ce qui fait que la J.A. que j'ai écrit et qui veut dire jouissance de l'autre en tant que parasexué, jouissance pour l'homme de la supposée femme, et inversement pour la femme que nous n'avons pas à supposer, puisque la femme n'existe pas, mais pour une femme, par contre, l'homme, qui lui est tout, hélas, il est même toute jouissance phallique, que pour cette jouissance de l'autre parasexué, qui n'existe pas, ne pourrait, ne saurait même exister que par l'intermédiaire de la parole d'amour notamment, qui est bien la chose, je dois dire, la plus paradoxale et la plus étonnante, et dont il est évidemment tout à fait sensible et compréhensible, que Dieu me conseille de n'aimer que son prochain, et non pas du tout de se limiter à sa prochaine, car si on allait à sa prochaine, on irait tout simplement à l'échec. Hein. C'est le principe même de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'archiraté chrétienne. Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit. C'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage, hors symbolique. Car c'est à partir de là, à savoir à partir du moment où l'on saisit ce qu'il y a, comment dire, de plus vivant ou de plus mort dans le langage, à savoir la lettre, c'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel. Cette jouissance de l'autre dont chacun sait à quel point c'est impossible, et contrairement même au mythe qu'évoque Freud, qui est à savoir que l'éros, ça serait faire un, mais justement, c'est de ça qu'on crève, c'est qu'en aucun cas, deux corps ne peuvent en faire qu'un. De si près qu'on le sert, j'ai été jusqu'à mettre dans mon texte, mais tout ce qu'on peut faire de mieux, dans ces fameuses étreintes, c'est de dire, serre-moi fort. Mais on ne serre pas si fort que l'autre finisse par en crever, quand même, n'est-ce pas? De sorte qu'il n'y a aucune espèce de réduction à l'air. C'est la plus formidable blague. S'il y a quelque chose qui fait l'un, c'est quand même bien le sens de l'élément, le sens de ce qui relève de la mort. Je vois tout ça parce qu'on fait sans doute beaucoup de confusion, comme ça, à cause d'une certaine aura, n'est-ce pas, de ce que je raconte, n'est-ce pas, on fait sans doute beaucoup de confusion sur le sujet que le langage, je ne trouve pas du tout que ce soit la panacée universelle. C'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a de mieux, n'est-ce pas, que l'inconscient ne dépend pas étroitement de la langue, c'est-à-dire de ce qui fait toute la langue est une langue morte, même si elle est encore en usage. Ce n'est qu'à partir du moment où quelque chose s'en décape qu'on peut trouver un principe d'identité de soi à soi. Et c'est non pas quelque chose qui se produit au niveau de l'autre, mais quelque chose qui se produit au niveau de la logique. C'est en tant qu'on arrive à réduire toute espèce de sens, qu'on arrive à cette sublime formule mathématique de l'identité de soi à soi, qui s'écrit X égale X. Pour ce qui est de la jouissance de l'autre, il n'y a qu'une seule façon de la remplir, et c'est à proprement parler le champ où naît la science, où la science naît. Pour autant, bien entendu, comme tout le monde le sait, c'est uniquement à partir du moment où Galilée avait des petits rapports de lettre à lettre avec une barre dans l'intervalle, où il a défini la vitesse comme la différence de... comme la proportion d'espace et de temps. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, comme quelque chose, comme un petit livre que je crois a commis ma fille, le montre bien, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on est sorti de toute cette notion en quelque sorte intuitive et empêtrée de l'effort qui a fait qu'on peut arriver à ce premier résultat qui était la gravitation. Nous avons fait quelques petits progrès depuis. Mais qu'est-ce que ça donne, en fin de compte, la science? Ça nous donne à nous mettre sous la dent à la place de ce qui nous manque dans le rapport de la connaissance, comme je disais tout à l'heure, ce qui nous donne à cette place, en fin de compte, ce qui pour la plupart des gens, tous ceux qui sont là en particulier, se réduit à des gadgets. Hein? La télévision, le voyage dans la Lune, et encore... vous n'y allez pas, il n'y en a que quelques-uns sélectionnés, mais vous le voyez à la télévision. Bon, c'est ça, la science part de là. C'est pour ça que je mets espoir dans le fait que, passant au-dessous de toute représentation, nous arriverons peut-être à avoir sur la vie quelques données plus satisfaisantes. Alors là, la boucle se boucle. Et ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est à savoir que l'avenir de la psychanalyse est quelque chose qui dépend de ce qu'il adviendra de ce réel, à savoir si les gadgets, par exemple, gagneront vraiment à la main, enfin, si nous arriverons à devenir nous-mêmes, enfin, animés vraiment par les gadgets, je dois dire que ça me paraît peu probable. Ça me paraît peu probable. Nous n'arriverons pas vraiment à faire que le gadget ne soit pas un symptôme, car il l'est pour l'instant tout à fait évidemment. Il est bien certain qu'on a une automobile comme une fausse femme, n'est-ce pas? On tient absolument à ce que ça soit un phallus, mais ça n'a de rapport avec le phallus qu'avec le que du fait que c'est le phallus qui nous empêche d'avoir un rapport avec quelque chose qui serait notre répondant sexuel. C'est notre répondant parasexué, et chacun sait que le para, ça consiste à ce que chacun reste son côté, chacun reste à côté de l'autre. Bon, ben voilà, c'est à peu près, je vous résume, enfin, ce qu'il y avait là dans mes 66 pages, avec ma bonne résolution de départ, qui était de lire, n'est-ce pas? Je faisais ça, comme ça, dans un certain esprit, parce qu'après tout, accaparer la lecture, c'était vous en décharger d'autant, mais peut-être faire que vous pourriez, et c'est ce que je souhaite, enfin, lire quelque chose, si vous arriviez à vraiment lire ce qu'il y a dans cette mise à plat du nœud borroméen, je pense que ça serait là, dans la main, vous topez quelque chose qui peut vous rendre service autant que la simple distinction du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Pardon d'avoir parlé si longtemps.